Bonsoir, comment allez-vous? Mentez-vous? En toute bonne foi, vous allez me répondre non. Et pourtant, ne vous êtes-vous jamais donné un an de plus ou de moins, un kilo de plus ou de moins? N'avez-vous jamais tenu une conversation sur la recherche du temps perdu alors que vous ne savez rien de Proust à part qu'il s'est couché de bonne heure, longtemps? N'avez-vous jamais mis un petit coup de fond de teint sur un vilain bouton? N'avez-vous jamais déclaré à un garçon sublime que vous adoriez le cinéma d'art et d'essai? N'avez-vous jamais surrangé votre maison avant l'arrivée des invités? N'avez-vous jamais dit à vos enfants que jeune, vous nagiez 50 mètres sous l'eau? À vos parents que vous n'aviez pas de devoir pour demain? À votre voisin que votre chat ne pouvait pas avoir uriné sur son paillasson puisque c'est une race qui n'urine pas? À votre compagne de voyage que vous êtes célibataire? Que l'enfant qui vous accompagne est celui de votre sœur? Et que s'il vous appelle papa, c'est qu'il n'en a pas, le pauvre chou? Pourquoi les humains font-ils ce genre de choses? Eh bien parce qu'ils le peuvent. Si le menteur est habile, rien ne le trahit. Aucune sonnerie, aucune diffusion d'odeur.
Bonjour, je m'appelle Charles, j'ai 7 ans et je voudrais savoir pourquoi les chiens, quand ils se rencontrent, ils se reniflent le derrière. Merci.
Joëlle Dehaas, vous êtes vétérinaire, écrivain, tout sur la psychologie du chien, édité chez Odile Jacob. C'est vrai qu'ils se flairent les fesses.
Mais on observe en effet que les chiens se reniflent, ben, ils viennent face à face, et puis ils viennent côte à côte, et puis ils se reniflent le derrière. Et puis ils tournent en se reniflant le derrière. Alors on a été chercher pourquoi. Mais il y a, au niveau du derrière, il y a bien sûr l'anus, il y a le vagin ou les testicules. Et puis, il y a toute une série de petites glandes autour de l'anus qu'on appelle les glandes circomanales. Il y a une glande sur la base de la queue qu'on appelle la glande supracaudale. Et en dessous de la queue, la glande subcaudale et toutes ces glandes. Ah oui, il y a toutes ces glandes qui produisent des phéromones, c'est-à-dire des odeurs qui ont une communication sociale ou une communication sexuelle. Donc le chien vient s'informer de l'identité, de la carte d'identité de son vis-à-vis, et la carte d'identité se trouve au niveau du derrière.
Donc en fait, quand Charles demande pourquoi il se renifle le derrière, ce n'est ni une menace, ni une déclaration de sympathie, c'est juste une prise d'information.
C'est une prise d'information, mais parfois un petit peu impolie, parce qu'il y en a qui sont très insistants à cause des odeurs sexuelles. Alors là, ils sont insistants et ils vont alors...
Quand une chienne est en chasse, par exemple.
Quand une chienne est en chasse, mais quand un chien mâle est castré, il produit aussi des phéromones sexuelles féminines qui le rendent très intéressant par les mâles intacts. D'accord. Et donc, ils viennent faire des reniflements et même des léchages et puis des tentatives de copulation.
Ça brouille les pistes un petit peu, ça.
Ça brouille les pistes, oui.
Est-ce que le chien est capable de volontairement lâcher des produits chimiques pour impressionner l'autre?
A priori, non, il n'est pas capable de produire une communication intentionnelle. Par contre, s'il a peur, il peut lâcher les glandes anales, parce qu'il y a aussi des glandes anales autour de deux glandes anales, à côté des glandes circumanales. Il peut lâcher ces glandes anales qui a une odeur très, très odeur de poisson.
Qui montre qu'il a peur.
Et quand les autres chiens sentent cette odeur, tous les chiens l'étalent.
Ah, parce que c'est désagréable.
Parce que ça veut dire qu'il y a eu une raison d'avoir peur à cet endroit-là. C'est un problème chez les vétérinaires quand on manipule un chien et qu'il a peur et qu'il vide ses glandes anales. La première chose qu'on doit faire, c'est enlever cette odeur, parce que sinon, pendant toute la journée, tous les chiens qui suivent vont avoir peur.
Ah oui, c'est communicatif.
C'est communicatif, contagieux.
Dans le livre de Joëlle Dehaas, Tout sur le chien, il y a vraiment tout. Ce n'est pas un livre d'humeur, c'est presque un livre pour un vétérinaire ou vraiment pour quelqu'un qui a un chien chez lui. Tout, tout, tout. Chez Odile Jacob, donc, ce soir, dans les petits bateaux, nous serons entre autres. Pourquoi ? Il y a des bulles qui s'installent dans un verre d'eau un petit peu ancien. Et qui allumait les lanternes dans les villes il y a très longtemps ? Qui étaient les allumeurs de réverbères? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, moi je m'appelle Samuel, j'ai 17 ans et j'avais une question concernant les tableaux qu'on a chez soi. Donc en fait, moi j'aimerais savoir comment on peut évaluer en fait la valeur d'un tableau qu'on a à la maison. Comment est-ce qu'on peut savoir si il aurait plus de valeur qu'un autre tableau ou qu'une autre œuvre d'art ou quelque chose comme ça. Donc voilà, merci beaucoup.
Merci Samuel pour cette question. Annette Doué, vous êtes restauratrice de tableaux, vous êtes aussi experte en authenticité des matériaux de la peinture et vous êtes enseignante. La valeur d'un tableau qu'on a chez soi, voici l'interrogation de Samuel.
Bonjour Samuel. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se demandent quelle est la valeur du tableau qu'ils ont chez eux. Alors, ils peuvent s'adresser à des experts marchands. Il y a également des maisons de vente, hein, comme les commissaires-priseurs, qui ont au sein de leur maison des experts. Et puis, moi, par exemple, qui suis expert en authenticité, je peux aussi donner une valeur. Mais pour donner une valeur, en fait, il y a différents facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. La première chose, c'est est-ce que le tableau en question est signé ? S'il y a une signature, on va aller directement faire une recherche sur le peintre en question. Est-ce que ce peintre est coté, c'est-à-dire est-ce qu'il a produit des œuvres qui ont déjà été vendues ? Donc, c'est pas forcément des œuvres de musée, mais ça peut être aussi des œuvres qui vont aller sur des ventes courantes. Donc, il y a des sites qui sont des sites pour la plupart professionnels, donc qui fonctionnent avec des abonnements, et qui vont, quand on tape le nom du peintre, donner les dernières ventes avec le détail des œuvres qui ont été vendues. Donc on a la localisation de la maison, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger, on a la date, on a la photo du tableau en question, on a les dimensions et on a le descriptif. On a le prix d'estimation qui a été donc estimé par l'expert, et puis le prix de vente.
C'est quand même pas mal d'informations.
C'est beaucoup d'informations. Donc, dans le cadre où le tableau est signé et dans le cadre où la signature est authentique, parce que parfois il y a des signatures qui sont fausses, donc dans le meilleur des cas, c'est assez facile. On peut faire ça, nous, en quelques minutes. Là où ça pose problème, c'est pour les œuvres qui ne sont pas signées. Alors, elles peuvent être signées et encadrées avec ce qu'on appelle un petit cartel en dessous avec le nom du peintre. Donc là, il faut faire le rapprochement. Est-ce que le nom du peintre qui est marqué correspond bien au tableau ? Donc, il faut faire une petite recherche en histoire de l'art. Donc là encore, il y a des historiens de l'art, il y a aussi des sites qui sont spécialisés, ça va prendre un petit peu plus de temps. Et puis, il y a des tableaux, on va dire, anonymes, qui sont faits soit par des peintres professionnels, soit par des amateurs, et là, c'est le grand vide. Parce que il faut essayer de retrouver l'artiste. Et là, des artistes sur les derniers siècles, ça en fait des dizaines de milliers. Et là, c'est un vrai travail d'expert. Tout est possible.
Vous avez certainement entendu parler de ce conte de fées cette semaine. Une vieille dame a trouvé dans sa maison, dans l'Oise, un tableau qui, pour moi profane, ne paye pas de mine. Il est pourtant d'un grand maître italien du XIIIe siècle. Ce tableau, le Christ moqué, c'est un panneau qui fait partie d'un polyptyque de 8 panneaux, donc il y en a maintenant 3, mais il en reste 5 dans la nature. On pense qu'ils sont en France, peut-être chez vous.
Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus, y a le jazz qui s'installe. Alors la rage au cœur, la java fait la malle. Ses petites fesses en bataille sous sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Quand j'écoute Béar en solo de batterie, v'là la java qui râle au nom de la patrie. Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste, c'est le jazz qui m'engueule me traitant de raciste. Quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Pour moi, jazz et java, c'est du pareil au même. Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem. Pour moi, jazz et java, dans le fond, c'est tout comme quand le jazz dit gomène, la java dit gomme. Mais quand le jazz est là, la java s'en va. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java. Jazz et java copains, ça doit pouvoir se faire.
pour qu'il en soit ainsi, tiens, je partage en frère, je donne au jazz mes pieds pour marquer son tempo. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos. Et je donne à la java mes mains pour le bas de son dos.
Le rythme, c'est la joie, c'est la vie. Le jazz et la java, c'était Claude Nougaro.
Les petits bateaux sur France Inter.
Dimanche dernier, c'était l'automne et c'était l'équinoxe équi-égal, c'est-à-dire que la durée du jour était égale à la durée de la nuit. Et oui, c'est un petit peu triste en ce moment, la nuit arrive plus vite. En revanche, ce qui est rigolo, c'est quand on passe, la plupart du temps par hasard, pouf, on voit un réverbère qui s'allume. Et oui, maintenant, il s'allume entre guillemets tout seul.
Bonjour, je m'appelle Déborah, j'ai 8 ans. J'aimerais savoir qui est ce qui allume les lanternes dans les villes il y a très longtemps. Merci, au revoir.
Bonsoir Déborah, je ne sais pas ce que tu entends par il y a très longtemps. Agnès Beauvais, pour écrire votre livre « Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain », vous êtes remontée jusqu'à quand ?
Jusqu'au premier texte que l'on peut trouver, alors non pas dans les archives, parce que moi je suis pas allée jusqu'aux archives, mais dans les premiers livres d'historiens, et ce qui est encore disponible, c'est-à-dire... Le traité de la police de Delamare, qui est un adjoint, enfin un homme important, qui va réunir pour Louis XIV tous les anciens textes de police.
C'est ça qui nous intéresse, donc pour Louis XIV.
Alors, on va dire que le premier éclairage public, en fait, c'est la lanterne royale, c'est celle qui est imposée par Louis XIV et par son conseil de police en 1666, et pour lequel il va lever un impôt qui s'appelle la taxe des bouts et des chandelles, et en réservant le soin d'allumer cette lanterne tous les soirs aux Parisiens. Alors, c'est-à-dire que la police, qui naît exactement en même temps que ces lanternes, hein, c'est vraiment les sœurs jumelles, impose que chaque quartier fasse des élections et élise le commis allumeur. Donc, par exemple, dans une rue, les habitants vont se réunir pour élire le commis allumeur. Alors, le problème de cette élection, c'est que, du coup... Personne n'a envie d'être commis allumeur, d'allumer pour la rue. C'est-à-dire que
c'est un travail, c'est pas payé.
Ah là, absolument. C'est une charge, c'est un service public qui n'est pas rémunéré. Et on élit le commis allumeur une fois par an pour toute l'année. Donc, en fait, les personnes dans certains quartiers, les gens vont s'amuser à élire le notable du coin ou la personne la plus riche. Alors, il faut savoir que les aristocrates étaient totalement exclus de ce type d'élection. Mais ça va vraiment poser un souci parce que on estime que c'est une charge vile, en fait. Et le sens, en fait, de la hiérarchie et, on va dire, de la position sociale est très, très, très importante sous l'Ancien Régime.
Donc, voilà, c'est ceux qui ont le moins de défense qui s'y collent.
Absolument. Et certains vont quand même réagir assez fortement et trouver que c'est quelque chose d'absolument impopulaire. C'est-à-dire que on va tomber sur des textes qui sont 30 ans avant la Révolution, des vrais textes qui revendiquent une égalité de traitement devant la loi. Parce que la police estime qu'il vaut mieux nommer d'office, en cas de discussion, un petit boutiquier, quelqu'un qui n'est pas très important, plutôt que de faire peser le poids de la charge sur un notaire ou sur un secrétaire du roi. Alors que le secrétaire du roi peut payer un gagne-denier pour occuper cette mission à sa place.
Donc pour répondre à Déborah, donc la lanterne royale, Louis XIV, et on ne va pas tout refaire jusqu'à maintenant parce que ce serait un peu long, mais peut-être une deuxième étape importante dans l'éclairage.
Après la lanterne royale et après le problème des commis allumeurs, il y a le réverbère. Et ensuite, le réverbère à huile, dont l'allumage va être lui pris en charge par la société qui va à la fois fournir les réverbères, fournir les allumeurs et se charge d'entretenir ces lumières.
On peut dire qu'avec le réverbère, l'État a commencé à sous-traiter.
Exactement. C'est l'un des premiers marchés publics. En réalité, même avec la lanterne royale, il y avait quand même des marchés qui étaient passés quartier par quartier pour fournir les chandelles. Donc il y avait des chandeliers qui devaient fournir les chandelles de cet éclairage et puis pour fournir les lanternes.
Elles n'étaient pas volées, mais elles sont magnifiques ces lanternes. Elles n'étaient pas volées, les chandelles ni les lanternes ?
Alors, les chandelles étaient souvent volées. Et d'ailleurs, par les allumeurs qui étaient soit commis d'office, soit des gagne-deniers qui étaient employés par des personnes importantes pour remplir cette charge à leur place.
Et voilà l'histoire des éclairages. Si vous êtes citadin, eh bien ça fait un moment probablement que vous n'avez jamais été dans le noir complet. Le noir, noir, c'est-à-dire qu'une nuit sans lune, vous ne voyez pas votre main. En ville, on voit très bien toute la nuit. C'est une catastrophe écologique pour les plantes, oui, il y a quand même des plantes en ville, pour les animaux. Peut-être que ça évite aussi à certains quartiers de se transformer en coupe-gorge. Gérard Ligé-Belair est physicien et photographe, professeur à l'Université de Reims. Il dirige une équipe de chercheurs qui travaille sur les bulles.
Bonjour, je m'appelle Vadia, j'ai 7 ans. J'aimerais savoir pourquoi il y a des bulles dans un verre d'eau si on les laisse toute une nuit. Au revoir.
Votre métier, c'est les bulles, Gérard Ligé-Belair. Vous avez écrit « Voyage au cœur d'une bulle de champagne » chez Odile Jacob. Là, on vous parle de bulles d'on ne sait quoi d'ailleurs qui se déposent dans le verre la nuit.
Alors, c'est une observation extrêmement pertinente. Tous les gens ne l'ont pas faite. Alors, effectivement, c'est très juste. D'abord, si on se sert un verre d'eau au robinet et qu'on ne la boit pas, qu'on laisse l'eau se reposer et qu'on revient le lendemain matin, si on est attentif, on va voir que il y a des petites bulles qui vont tapisser les parois du verre.
Ouais.
Alors, ce sont des bulles de gaz qui étaient présentes à l'état dissous dans l'eau, qu'on ne pouvait pas voir quand on venait juste de la sortir du robinet, parce que tout simplement, l'eau qui sort du robinet est à une certaine pression. Alors, plus on met une eau sous pression, plus elle est capable de contenir du gaz dissous. Quand elle sort du robinet, elle est légèrement sous pression. Par contre, quand tu la laisses reposer dans ton verre, elle revient à la pression atmosphérique normale, qui est légèrement plus faible, et inévitablement, le gaz dissous doit s'échapper. Alors, il le fait extrêmement lentement, et si tu attends quelques heures, tu vas pouvoir effectivement voir ce gaz qui s'échappe sous forme de petites bulles qui vont tapisser les parois du verre.
Quand vous dites, Gérard Ligé-Belair, du gaz dissous, ça veut dire que le gaz n'est pas en bulle ou alors en minuscule bulle ?
Non, ce sont même pas des mini-bulles, c'est vraiment des molécules de gaz qui sont incorporées dans l'eau. Ce sont vraiment des molécules dispersées dans l'eau.
10 sous, c'est pas cher, disait Bourvil dans L'eau ferrugineuse, un sketch que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, bien rigolo.
Smiles turn into crying, it's the same release. And you always know, and you always know. I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm your summer girl, I'm
trois belles filles originaires de Californie, Summer Girl, comme son nom l'indique, est sortie cet été.
Bonjour, c'est Polo de Tours. Je voudrais savoir pourquoi on transpire lorsqu'on a peur. Merci, au revoir.
Bonsoir Polo, pourquoi est-ce qu'on transpire quand on a peur ? Docteur André-François Arcier, vous êtes président fondateur de Médecine des Arts, donc vous soignez des artistes. Et Dieu sait que les artistes peuvent avoir peur. Pourquoi on transpire quand on a peur, demande Polo.
Furetière a... Dès le XVIIe siècle, a créé un dictionnaire et il marquait sur son dictionnaire à ce propos « moité de peur ».
Moité de peur.
Avoir les mains moites, on comprend que ça n'a rien à voir avec ce qui en général est dévolu à la transpiration, c'est-à-dire la thermorégulation, régler la température du corps. Ça a à voir avec les émotions. Quand on transpire, c'est les émotions qui sont en cause. George Sand d'ailleurs ajoutait « la main de l'anxieux me répugne ». Pourquoi ? Parce que souvent, quand on est anxieux, on a les mains moites et comme c'est à l'extrémité, souvent il y a des sueurs froides.
Ah.
C'est une expression que l'on dit souvent. Non, je ne sais pas si ça t'arrive, Polo, mais on peut tous avoir les mains froides à des moments du fait des émotions qu'on vit. Alors pourquoi derrière ça on transpire, on a de la sueur du fait des émotions ? C'est parce que on est organisé finalement pour répondre à la peur, à ces émotions. Et il y a un système qui est fait pour que on puisse agir quand il y a un danger. Et ce système-là, c'est un système excitateur. très généralement. Et donc, le cœur va s'accélérer, la respiration va s'accélérer. Certaines glandes vont être excitées, c'est le cas de la glande surrénale, et il va y avoir de l'adrénaline. Mais aussi, il va y avoir les glandes sudoripares. Et donc, ces glandes vont être excitées, et donc tu vas avoir des sueurs, de la transpiration, du fait de ces émotions. Mais il faut savoir que là aussi, tu dois pouvoir ajuster un petit peu, mieux régler ton système d'excitation. Essayer de faire en sorte d'être moins excité quand ce n'est pas nécessaire, et donc avoir moins de sueur. Ça s'apprend. Et donc, par des techniques relaxantes, la sophrologie, d'autres techniques de ce domaine-là, on peut limiter les effets de cette excitation nerveuse, du système nerveux périphérique autonome.
Donc en fait, si je comprends bien, docteur André-François Arcier, on ne travaille pas sur la transpiration, mais sur les émotions, sur la cause en fait.
On peut travailler aussi sur la transpiration dans d'autres cadres, parce qu'il y a des personnes qui ont une des pathologies, ce qu'on appelle l'hyperhidrose, c'est-à-dire il y a des personnes, pour des raisons X, qui vont transpirer plus que d'autres. Il faut savoir d'ailleurs que la transpiration, ça peut être un phénomène gênant dans les pratiques artistiques. C'est gênant par exemple pour un pianiste qui est stressé, qui a le trac, et qui va, ses mains vont glisser finalement sur le clavier. C'est gênant aussi dans certains cadres, bon il faut peut-être pas en parler à Apollo, mais on va essayer. C'est par exemple dans les cabarets, les danseuses qui dansent peu habillées et qui transpirent au niveau des aisselles, bon c'est pas toujours très élégant. Et donc, ça peut poser des problèmes. Et il y a des traitements plus conventionnels, des traitements chimiques, j'allais dire, qui ont une relative efficacité. Mais moi, je pense que le mieux, ce qui est préférable, c'est de traiter les choses de façon la plus douce, la plus simple. Et souvent, c'est de gérer ses émotions.
Et oui, plus on a peur, et en général, plus on a envie de cacher qu'on a peur, et ce n'est pas si facile que ça. Avant de vous quitter, j'aimerais dire un mot à Florent, qui nous a téléphoné pour nous dire que dimanche dernier, nous avions répondu à une question d'enfant qui demandait pourquoi les gendarmes allaient deux par deux, et nous avions parlé des gendarmes en moto sur le bord de la route. Et Florent nous dit « Mais non, il s'agissait certainement des insectes parce qu'ils vont toujours deux par deux. » Comment savoir, ils vont tous deux par deux, les gendarmes. Petit bateau, c'est terminé pour ce soir, mais nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Tiffany Battistel, Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham. Vous pouvez retrouver cette émission par franceinter.fr. Pour le moment, je vous laisse avec Denis Chessou pour La Tulle, mon petit loup.